un gros succès, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui allait le voir. Ça s'appelait les aventures d'un producteur de films pornographiques. Mais j'ai jamais rien vu d'aussi mauvais, d'aussi laid, d'aussi bidon, et vraiment d'aussi peu érotique que ça. Ça montrait beaucoup moins que n'importe quel film pas érotique actuel. Ça ne donnait pas la moindre idée. Ça pouvait même pas donner une idée à un enfant de 4 ans. Et en plus, c'était laid. C'était un film finlandais. Bon, la Finlande est un très beau pays. Mais à part certaines jolies finlandaises et des gens finlandais un peu jeunes et un peu frais, la plupart des Finlandais qui m'avaient donné l'occasion de voir sont des gens très vilains. Sont des gens avec des cheveux rasés courts et des allures de GI. Et bon, qui sont très sympathiques en dehors de ça, mais qui n'ont pas la prétention d'être des gens décoratifs en général. Et alors, ils avaient choisi en plus les plus vilains, là. Et il se passait rien du tout, c'était des gens qui mimaient des accouplements ridicules à raison d'une minute toutes les demi-heures, quoi. Et le reste étant d'une intrigue ridicule, mauvaise, mal tournée, à très bon marché. Alors ça m'écœure que ça soit un succès.
Marilyn, quel est le film? Le scénario qu'il te faut tourner de nouveau, et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn. Avais-tu donc le cœur si large que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine? Oh Marilyn, Marilyn, le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor et le soleil californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait. Toi qui connais la fin du film, dis Marilyn. Est-ce un baiser, dit Marilyn? Est-ce un baiser?
Jean Daniel Loup, cardinal.
Je vais au cinéma, je dirais, quand on m'emmène. J'avais autrefois ma vieille amie, Madame de Panche, par exemple, qui est morte il y a quelques mois. Et bien, de temps en temps, elle me disait, je vous emmène au cinéma. Et alors, eh bien, j'allais avec elle voir, n'est-ce pas, tel ou tel film. Alors, ceci, et je tiens à le dire, ne vient pas du tout de ma part d'un manque d'intérêt pour le cinéma. Je considère au contraire que le cinéma est quelque chose qui a une importance exceptionnelle, n'est-ce pas, voyez, dans le monde d'aujourd'hui. Seulement, ça tient un peu qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Dans ma génération, le cinéma faisait moins partie de la culture commune, n'est-ce pas, qu'il ne le fait aujourd'hui. Je vois par exemple mes jeunes confrères, de jeunes religieux, si vous voulez, n'est-ce pas, eh bien, au contraire, pour eux, le cinéma est quelque chose qui fait partie de leur culture. Ça n'était pas exactement le cas pour ma génération. Et les souvenirs de ma jeunesse sont certainement davantage des souvenirs de théâtre et des souvenirs de musique, si vous voulez, que des souvenirs de cinéma. Aujourd'hui, certainement, n'est-ce pas ? Alors, au contraire, l'Église se rend tout à fait compte de l'immense importance des moyens audiovisuels. Nous avons de plus en plus de jeunes religieux qui sont engagés à la télévision ou ailleurs et qui suivent ces questions de cinéma. Et alors là, ceci, alors, j'en suis pour ma part très profondément d'accord, enfin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je crois que le cinéma est appelé à jouer dans le monde d'aujourd'hui un rôle immense, nous sommes un monde où l'image est de plus en plus importante. Et alors, je dirais, c'est peut-être là, si vous voulez, un peu ma préoccupation. Je pense qu'il y a de très grands films, mais je pense malgré tout que la production commune, peut-être en particulier à cause de certains critères qui sont finalement les critères de la société de consommation, c'est-à-dire la nécessité de vendre à tout prix, avec toutes les surenchères que ceci peut entraîner, n'est-ce pas ? Alors, fait que le cinéma est dans le monde d'aujourd'hui quelque chose d'extrêmement ambigu. Je veux dire par là que c'est un moyen très puissant de culture, n'est-ce pas ? Et en particulier de culture populaire. Mais d'autre part, je pense que ça peut être aussi un certain élément de dégradation, si vous voulez, intellectuelle et morale. Je fais allusion aux films pornographiques et là c'est un peu, si vous voulez, une certaine introduction même de la pornographie, même dans des films qui ne sont pas, enfin, pornographiques, si vous voulez, en tant que tels. Je pense aussi à une certaine exaltation, si vous voulez, de toute manière, du violent, de l'excessif. Et ça, je dois me dire, vous voyez, ça me heurte très profondément, justement, parce que se trouve que ce sont des moyens faciles, vous comprenez, et qu'au fond, les œuvres vraiment valables sont celles qui savent, au contraire, nous aider à découvrir la profondeur et la poésie des choses, justement, beaucoup plus simples et ordinaires. Par exemple, j'ai beaucoup aimé La nuit chez Maud, Le genou de Claire, enfin, les films de
d'Éric Rohmer,
justement, parce que je trouve qu'on est là dans des analyses de sentiments qui, finalement, émeuvent beaucoup plus profondément que des étalages de coucheries et de tueries qui finissent par laisser parfaitement indifférents. Je n'ai pas vu tous les films de Buñuel, mais j'ai été fortement impressionné par certains films de Buñuel. D'abord, j'ai beaucoup aimé La Voie lactée, et j'ai été très intéressé l'autre jour dans un interview de Ionesco, de voir Ionesco dire qu'il y avait une séquence de La Voie lactée qui avait été pour lui une véritable révélation. Eh bien, je pense qu'il y a dans La Voie lactée une manière de faire sentir, je dirais, la présence du surnaturel dans la banalité de l'existence. Vous voyez, quand on voit des garçons de café discuter sur le dogme de Calcédoine, qui m'apparaît exprimer quelque chose de profondément vrai. Car je crois, pour moi, par exemple, que c'est la même brave femme, eh bien, qui va acheter, n'est-ce pas, des légumes chez l'épicier après avoir communié à la messe et en portant Dieu dans son cœur. Et de faire sentir, si vous voulez ça, je crois que c'est un peu le génie de Buñuel. J'ai beaucoup aimé aussi L'ange exterminateur, où je trouve qu'il a exprimé alors des thèmes qui sont, je crois, les thèmes les plus fondamentaux de tout le cinéma contemporain, c'est-à-dire, si vous voulez, le thème de la captivité, le thème du camp de concentration, le thème du besoin de libération, avec cette ambiguïté de savoir si cette libération est politique ou si cette libération est spirituelle, si vous voulez. Mais un film comme celui-là me paraît alors exprimer des aspects de l'inconscient de l'homme contemporain, mais alors à un niveau vraiment profond. On peut en même temps être religieux et anticlérical, et il y a chez Buñuel une hantise du sacré. Et c'est ça, moi, qui me paraît essentiel, n'est-ce pas ? Bien que, bien entendu, alors, ce sacré se présente parfois, enfin, sous la forme, sous des formes négatives, mais enfin, il y a chez lui tout de même un sens de cette dimension du sacré. Et moi, ce que j'attends d'une œuvre, ce n'est pas qu'elle soit bien pensante, mais c'est qu'elle me donne de l'homme une image totale.
Jean-Claude Boutier, boxeur.
Les films de boxe, j'en ai vu un seul. Mais un seul dont je me souviens et qui m'a beaucoup plu,
C'était Rocco et ses frères. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux sur la boxe que sur la boxe, quoi, à peu près. Ce que j'ai vu, moi, quoi.
Mais, il y a un film ancien comme Gentleman Jim.
Oui, c'était très bon aussi. Oui, je l'ai vu. Oui, c'était très, très bon. Très bon film. Mais évidemment, vu notre époque, enfin, je veux dire, ce qu'il y a de plus récent, quoi, c'est Rocco et ses frères. Et moi, j'ai trouvé que c'était un grand, grand film sur la boxe. Et c'était très bien interprété, enfin. Ça m'a beaucoup plu, là. Et j'aimerais le revoir.
Est-ce que vous avez plaisir à voir les films chinois récents qui sont très violents, où il y a le karaté qui joue un rôle important, les arts martiaux?
Ouais, c'est très bien fait, tout, ça m'amuse beaucoup, mais je vais pas spécialement voir ce genre de film. Je préfère aller voir un bon policier, ou alors un bon western. Ça, alors j'adore ça, alors les westerns, alors c'est quand je peux en trouver un bon, j'y cours en vitesse.
Alors là, on est à la salle Bretonnelle, c'est tout près du quartier de Saint-Denis. Il y a beaucoup de cinéma dans le coin. Est-ce que vous allez voir les films qui passent par ici?
Ben, je vais souvent, oui, sur les boulevards, parce que j'en suis très près, comme vous dites, et c'est là où sortent, enfin, tous les grands films, pratiquement, quoi. Alors c'est très souvent que j'y vais. Ça m'arrive même l'après-midi, l'hiver, pas l'été, mais l'après-midi, quand je suis à Paris, que j'ai 2 heures de libre, je fonce au cinéma. Avant un match, même, ça m'arrive d'y aller. Et là, j'oublie que je veux faire un match le soir, et je suis au cinéma si ça me passionne, si je trouve ça bon, alors c'est très bien.
Guy Bedos et Sophie Daumier.
Je me présente, Maroski Junior, le producteur du film. Asseyez-vous, ça vous intéresse le cinéma, mademoiselle?
Oui.
Dommage, c'est la crise en ce moment.
Oh oui, qu'est-ce que c'est difficile.
Je sais pas ce que nous allons devenir, hein. C'est le marasme. Vous avez encore vos parents, vous?
Oui, heureusement.
Tandis que moi, je suis tout seul. Si ça continue, je sais pas ce que je vais faire. Enfin. Vous avez lu le scénario du film?
Oui, c'est très intéressant.
Oui, maintenant c'est très bien. C'est moi qui ai tout refait. J'avais engagé un auteur, très cher, un Goncourt. J'ai rendu son texte. Je lui ai dit, cette dialogue, elle est même pas française. J'ai tout refait.
Eh ben, c'est formidable.
Oui, maintenant c'est pas mal. C'est pas mal. Faites-moi le profil. Pour le faire. Le nez.
Ah ben ça, c'est autre chose.
Comment?
Écoutez, il n'est pas plus vilain qu'un autre.
Non mais, alors, c'est pas votre nez, votre nez. Ce qui compte, mademoiselle, c'est le nez de votre personnage, dans le film. Et dans le film, votre nez, il est minuscule. Le scénariste est formel. Et le scénariste, c'est moi.
Bah, au fond, ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qui paiera l'opération?
La production, naturellement. J'ai un chirurgien qui me fait des prix. C'est pas le meilleur, mais il me fait des prix.
Oh ben, alors ça marche. À condition que mes parents soient d'accord, naturellement.
Ils sont d'accord pour pouvoir embrasser cette carrière?
Le cinéma, la partie artistique, ils aiment pas tellement. Ils auraient préféré la partie technique. Ils la trouvent plus propre.
Oh, vous savez tout ça. Vous avez les cheveux longs?
Oui, très longs.
Ça va pas du tout. Faut couper et décolorer.
Quelle couleur?
Blanc.
Oh, justement, je les ai eu blancs l'année dernière et ça me va très bien. Quelle longueur?
Dans le film, vous êtes un personnage de transformation, une aventurière. Au début, espionne suédoise et à la fin, passionnariat italienne, assassinée.
Ah bon? C'est très intéressant.
Avant de vous assassiner, on vous tond.
Complètement.
Complètement, complètement rasé, papier de verre, comme un bonze. Très bonne publicité. Faut accrocher en ce moment, c'est la crise, hein, c'est la crise. Combien voulez-vous gagner?
Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de cinéma.
Dites un prix, je vous dirai si je peux.
Je ne sais pas, je ne connais pas la valeur de l'argent, je suis très enfant, vous savez. Ce qui me plaît, c'est votre scénario, c'est jouer un rôle où on me donne des responsabilités. Je voudrais créer un personnage. 3 millions.
200 000 anciens francs, ça va? Bien, ça va coller. Vous avez de la chance. Une affaire comme ça en pleine crise. Qu'est-ce qu'on dit à M. Marowski Junior?
Merci, M. Marowski Junior.
Michel Jazzy, athlète.
J'y vais régulièrement, 4 fois par an. Je n'ai jamais vu un film de Pyrotechnic Jettati. J'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là, mais je n'ai jamais vu un de leurs films. Je n'ai jamais vu un film des Charlots. Mais je dois dire que Louis de Funès me fait courir. Louis de Funès et Bourvil m'ont toujours fait courir énormément. La Grande Vadrouille et puis Oscar, vous savez, ça marque quand même dans les films comiques. Les films grandioses, je dois dire qu'avec tout ce que ça représentait comme artiste, comme figurant, le Docteur Jivago, pour moi, c'était assez fantastique. Bien sûr, ce sont des films coûteux, mais c'était assez émouvant quand même. Je l'ai vu d'ailleurs plusieurs fois. C'est un film très long, mais je l'ai vu 3 fois quand même. Je suis sentimental. Et Lelouch, tous les films qui ont attrait au style de Lelouch, ce sont des films sentimentaux. Et les Américains, qui sont des gens très difficiles, ont été sensibles à son style et puis à sa façon de procéder, que, ma foi, c'est proche et même ça dépasse par moments les Américains. Je n'ai pas vu Love Story, parce que j'ai lu le livre d'abord. Et le livre, bien sûr, c'est une histoire sentimentale. C'est une histoire sentimentale qui est arrivée à une époque où les Français avaient une époque un peu excitée. Et on voyait dans les rues des choses désagréables, des garçons avec des longs cheveux, des choses horribles, des filles qui n'étaient pour ainsi dire pas des filles, des garçons qui n'étaient pas des garçons. Et cette histoire de Love Story est arrivée à brûle-pourpoint pour contrer un peu le style que nous vivons à l'heure actuelle. Je pense que ça a été là un peu le grand succès de Love Story, car si ce film était sorti, et j'en suis persuadé, 15 ans avant, je ne pense pas qu'il n'aurait eu le grand succès qu'il a eu. Je suis romantique, oui, c'est vrai. Je me demande aussi, est-ce que c'est mes origines qui veulent ça? Parce que je suis slave, je suis polonais exactement, et je suis né en France, bien sûr, mais je suis polonais de père et mère. Et le docteur Jivago, avec tout ce que nous avons vu, la campagne russe et tout cela, ben, ça m'a rappelé un peu mon pays que j'ai visité d'ailleurs plusieurs fois. Et docteur Jivago m'a beaucoup, beaucoup plu, et surtout les acteurs. En jargon sportif, ce n'étaient pas des charlots. Mais je crois qu'un des grands moments que j'ai passé au cinéma, ça a été quand même le film que j'ai vu avec Simone Signoret et puis Alain Delon, La Veuve Coudert. La Veuve Coudert, je crois que c'était un film assez exceptionnel. Ce monstre du cinéma qui est Simone Signoret, qui a mis sur un tremplin exceptionnel Alain Delon, malgré son talent, eh bien, je pense qu'Alain Delon a eu vraiment la chance de tomber sur une grande artiste qui l'a aidé dans son rôle.
Est-ce que ça vous a ému, ce film, La Veuve Coudert?
Beaucoup. Beaucoup, parce qu'en principe, ça retrace, pas en principe, mais ça retrace un peu la vie courante qu'il y a dans les campagnes. On a tendance à penser que les campagnards sont souvent ardus au travail et qu'ils n'ont aucun loisir, aucun souci, sinon que le travail, le ménage, la famille. Mais il y a des moments où, à la campagne, on a des moments de vouloir s'évader et de vivre une aventure. Je suis né à 240 km de Paris, je suis né à côté de Lille. J'étais un garçon de la terre, mon père était mineur, j'ai un garçon de la terre, j'ai labouré les champs, j'ai fait n'importe quoi, ce qu'un enfant peut faire de plus sale. Et ma foi, maintenant, j'ai une situation tout à fait différente. Mais quand j'étais gamin, j'étais davantage près de la nature. Et quand j'étais sportif, non pas professionnel, parce que dans notre sport, on n'est pas professionnel, mais sportif actif à 100%, eh bien, jamais on m'a vu courir dans les villes, on m'a toujours vu courir à la campagne, parce que j'estime que faire 20 km dans une forêt et d'effrayer les biches, d'effrayer les lapins et puis les oiseaux, c'est quelque chose de très joli. Mais il y a un moment pathétique, exceptionnel, à filmer, c'est le garçon qui quitte son domicile, qui prend sa voiture, qui va au stade. Il y a tout un monde qui passe dans sa tête. Il a peur, il est contracté, il est crispé, il ne veut pas que sa compagne, s'il est marié, lui parle. Quand il pénètre dans le stade et que les gens lui disent « ça va, t'es en forme ?» Quand on s'attaque à une grande performance, on est systématiquement en forme. Ce sont des questions stupides. Quand il est au vestiaire, il y a tout un monde de questions qui se posent dans sa tête quand il se change, quand il va s'échauffer. Et au moment de se changer pour pénétrer dans l'arène, Là, il y a un moment qui peut durer quand même 40 minutes d'exceptionnel. Là, je crois que Reichenbach ou bien Lelouch pourraient faire quelque chose de très joli.
It's Halloween in Hollywood for Mickey Mouse and Clint Eastwood. A rockin' and a rollin' on James Dean's hood to the sound of Johnny B. Goode. Old Rin-Tin-Tin and Big John Wayne are strolling down on Primrose Lane while Elvis Presley croons a strain from the caboose of a train. Sinatra, Crosby, and Mae West are square dancing in Holly West while Greta Garbo takes a rest and Charlie Chaplin does his best. Laurel and Hardy and Costello tiptoe around Valentino. So trick or treat, they all follow the stardust of Marilyn Monroe. Dracula is kissing Ben-Hur. Charles Boyer covers them with fur. And Brando with the Burton Taylor looks a health piece lunch in Big Sur. Sorry about those I forgot. Mickey Rooney, Spencer Tracy, and Bada Bud. Give my regards to Carol Lombard and Bogart. Say hello to Clara Bow and Jean Harlow. All the Tarzans and Woody Allen are going crazy for Wonder Woman. But it's no use, she's faster than the news and got married to Howard Hughes. I saw them all in my crystal ball, like angels in a mirror's hall. Coming soon on your favorite moon with the last spooky cartoon starring Clark Gable, Betty Davis, Gary Cooper, the Marx Brothers, the Barrymore, and more. I met the Lone Ranger in the sky, riding a white mobile gas horse. He probably joined the Air Force. When we met, I was very high. He told me Hollywood would die and be replaced by Holly Steel. The biggest highway in the sky. Can you imagine?
C'était René Charlebois dans Halloween in Hollywood. Film, femme, festival. Toronto 73.
Agnès Varda.
On a vu des films de toutes sortes et un échantillonnage très complet de tout ce qui se fait, de tout ce que les femmes ont fait au cinéma, donc dans les 50 ans, dans les 50 dernières années et premières années du cinéma. Et ce qui était encore plus passionnant, c'est que c'était un festival organisé pour des femmes. Autrement dit, il y avait un lieu extraordinairement grand, avec une crèche, formidablement bien installée, des petits animaux pour que les enfants s'amusent, des lits pour qu'ils dorment, etc. Alors les mères arrivaient avec plein d'enfants, elles les calaient en bas. La crèche fonctionnait tout le temps, elle était, les enfants étaient gardés par des hommes et des femmes, surtout des hommes. Ensuite, il y avait des lieux où on pouvait se tenir, parler, boire, manger, des espèces de salles où on s'asseyait par terre, et deux cinémas permanents, de midi à minuit, gratuit. Alors les femmes arrivaient, et puis elles posaient leurs gosses, et puis elles rentraient dans une salle, elles regardaient un petit peu de film, elles sortaient discuter. Et au fond, on s'est aperçu que le cinéma était, pour les femmes qui venaient là, un alibi et un moyen de parler. Et non pas du tout le bavardage, enfin, qu'on prête aux femmes, le petit potin et les petites histoires, mais une occasion de soulever, de discuter, de poser des problèmes qui leur tiennent très à cœur et au fond qu'elles n'auraient pas osé aborder comme ça. Elles ne seraient pas venues à une réunion de femmes, elles ne seraient pas venues à un meeting, elles ne seraient pas venues à une assemblée. Elles venaient à un festival de cinéma, elles passaient 10 minutes dans la salle et 3 heures dehors à parler avec d'autres femmes. Il y avait des débats organisés sur le programme avec des sujets précis, la réalisation, la technique, je sais pas moi, les moyens du cinéma, des choses comme ça. Et puis il y avait des débats complètement improvisés. Sur le plan cinéma, c'était magnifique parce qu'on pouvait voir tout ce que les femmes ont fait. Et on pouvait voir de façon très claire qu'elles ont commencé par imiter les hommes, que tout le cinéma, disons, des 45 premières années du cinéma de femmes est un démarquage des films d'hommes avec plus ou moins de grâce et de féminité. Et puis, depuis 5 ans, il y a tout d'un coup des femmes qui commencent à se dire qu'il ne faut pas faire des films de femmes, mais il faut penser d'une façon originale. Et ça, j'ai vu des choses extraordinaires. Il y avait du vidéo qui marchait sans arrêt. Et ça, ça avait pour double but d'avoir des souvenirs, disons, de ces réunions, et aussi de démystifier la technique. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la technique et qui pensent qu'elles n'aborderont jamais le cinéma, à quelque niveau que ce soit, parce que c'est difficile, parce que c'est technique. Alors, il y avait des ateliers de vidéo où on leur donnait une caméra. Et on leur montrait qu'en 3 minutes, elles pouvaient apprendre à se servir d'une vidéo et il y avait quelque chose sur l'image et c'était peut-être même joli. Et ça, ça a été incroyablement révélateur pour certaines femmes. Il y a des femmes, justement, qui, grâce aux vidéos, se décrivaient, parlaient à d'autres femmes. Si vous voulez utiliser le moyen du vidéo pour simplement oser parler d'elles-mêmes autrement que comment vont tes enfants, comment va la famille, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. J'ai vu des femmes incroyablement, disons, classiques, des mères de famille et tout, par le truchement du cinéma, tout d'un coup se révéler d'une curiosité extraordinaire. Ça, ça m'a semblé très intéressant que le festival ne copie en rien les festivals de films classiques, ni dans la compétition comme à Cannes et tout ça, ni même dans la notion de beaux films et de chefs-d'œuvre comme le festival de New York ou enfin, bon. C'était au fond une rencontre. Et c'était une façon de dire, les femmes veulent maintenant utiliser le cinéma à leur fin personnelle, quitte à créer des œuvres qui n'auront rien à voir avec la notion du film classique qui passe par une distribution classique. Il semble qu'il y ait une naissance d'une nouvelle forme d'audiovisuel. Ah oui, oui, le Near the Big Chakra, ah oui, ça c'est fantastique. Il y a voilà typiquement ce que je veux dire. Il y a par exemple une femme de San Francisco qui a réfléchi, enfin elle a expliqué que c'était ça, ses motivations, elle a réfléchi. Et elle a dit, voilà, on nous a montré toujours l'image idéale du sein, du nez, de la bouche, en fait, tout ce qu'on devrait avoir d'une façon prototype et superbe. On ne nous a jamais montré ce qu'on devait avoir entre les jambes. Alors, elle a fait venir des femmes dans son studio, elle les a mis nues, elles ont écarté les jambes, et ça a été filmé. C'est donc une série de vagins, il y en a 17, enfin, j'en ai dénombré 17, mais je me suis perdue dans mes comptes, peut-être. Muets, simples, sans commentaires, ce sont des petites filles, des vieilles dames, des noires, des blanches. Et tout d'un coup, on se dit, c'est une image et une notion, non seulement qu'on n'a jamais vue, qui n'est pas du tout pornographique, qui n'est pas du tout masculine, qui est tout d'un coup une idée de femme, exprimée par une femme, et qui avait un impact incroyable sur la salle. Et curieusement, pas du tout un impact de voyeurisme, mais tout d'un coup une occasion de parler comment les femmes, par exemple, pensent à leur propre corps. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour ça? Et est-ce qu'elles acceptent l'image qu'on montre d'elles au cinéma?
Le nom est inscrit sur la colline, en majuscule de 10 mètres, de sorte qu'on sait que c'est là. On peut garer sa voiture dans les terrains vagues, mais pas plus de 2 heures, parce qu'ensuite, on va construire une maison. Quant à acheter la maison, il ne faut pas y compter encore. Elle ne sera pas finie avant le lendemain soir, à moins que ce soit un bungalow déjà habité, qu'on apportera sur un camion, avec ses arbres et le jardin. L'endroit que j'aime le mieux, non, ce n'est pas la poste, avec les plus belles filles du monde qui sortent des langues roses pour coller les timbres sur des lettres ou les bureaux d'épreuves répondent aux solliciteurs du monde entier qu'ils n'ont pas besoin de leur service. Ce n'est pas le Hollywood Plaza où les mères de la planète débarquent avec leurs filles en costume de chercheuses d'or. Ce ne sont pas ces 100 000 instituts de beauté où des spécialistes du scalp font des rayons ultraviolets à tout le monde, y compris aux receveurs des tramways. Ce ne sont pas les bouillons populaires, où les comtes italiens et les princes russes, à $7 par semaine, tout fardés, pensent au jour où ils pourront acheter une Ford à crédit. Ni Montmartre, le vendredi, quand dînent les stars avec les écrivains attachés à l'établissement, sous l'œil attendri des touristes de Pasadena et de Santa Barbara, ni le whisky sous la table, ni le sous-sol des ambassadeurs avec ses trésors extrême-orientaux, ni même Eleanor Glynn. L'endroit que j'aime n'est rien qu'un terrain vague, tout près de Culver City. On entend le déchirement des moteurs de course et l'odeur d'huile de ricin vient parfois de l'autodrome quand le vent est favorable. C'est juste derrière le 2000 studio, avec leur grand temple de Jérusalem qui rit à abandonner, et qui est là, barbare et rouge au fond du Pacifique, comme les temples de Nara ou de la Nouvelle-Guinée. Au loin, on voit Beverly Hills, et sur la droite, la Metro-Goldwyn, puis Paramount, avec sa moitié de paquebot au-dessus de la ville qui garde du soleil dans ses soutes à l'heure où toute la plaine est déjà dans l'ombre. On est bien à cause du voisinage de la mer. On pense à toutes les jeunes filles belles en province qui se donneraient pour être ici aux jeunes gens du monde entier qui se croient d'échecs. Bref, à tous ceux qui ne savent pas qu'un studio, c'est ce qui ressemble le plus à une administration soviétique.
Hollywood de Paul Morand.
René Floriot, avocat.
J'avais fait un petit scénario pour m'amuser. Et je l'avais montré à des amis qui avaient été très bienveillants, qui avaient décidé que c'était intéressant. Et puis un jour, ce scénario, plus exactement ce synopsis, est tombé entre les mains d'un dirigeant d'une très grosse société cinématographique qui m'a déclaré que ça l'intéressait beaucoup et qui me l'achetait. Je l'ai vendu, tout étonné qu'il offre du reste un prix aussi important pour ce que je considérais comme être une petite distraction. Il est allé plus loin, ce brave homme, et il m'a dit « J'aimerais bien que vous collaboriez, puisque c'est un film judiciaire, que vous collaboriez avec le metteur en scène pour les dialogues, pour les situations, puisque vous les connaissez mieux que quiconque. » J'ai accepté, ça m'intéressait, tout en prévenant que j'avais pas beaucoup de loisirs et que je ne pourrais pas y consacrer beaucoup de temps. Et puis je me suis aperçu tout de suite que nous n'étions pas d'accord, mais pas d'accord du tout avec le metteur en scène. Vous savez que les metteurs en scène considèrent qu'ils sont les seuls à détenir la vérité et qu'ils sont les seuls à connaître le goût du public et qui décide en dernier sort ce qui plaira ou ce qui ne plaira pas, étant entendu qu'il se trompe tout de même assez souvent. Bien. Moi, j'ai toujours été très intéressé par les erreurs judiciaires. Et je voulais montrer au public, si on acceptait de tourner mon film, comment des policiers intelligents et des magistrats compétents pouvaient, de la meilleure foi du monde, commettre une erreur judiciaire parce qu'un ensemble de circonstances, des coïncidences troublantes, les avaient trompés. Et pour bien montrer comment se fabriquait, si j'ose dire, une erreur judiciaire, les premières séquences de mon futur film représentaient le crime en train de se commettre. On savait qui était le criminel, on savait pourquoi il tuait, et on le voyait prendre toutes les précautions susceptibles d'éviter d'être arrêté. C'était assez puéril de sa part, tant et si bien que le spectateur devait être convaincu que dès le lendemain, on découvrirait le cadavre et que, très peu de temps après, on mettrait la main au collet du meurtrier. On découvrait effectivement le cadavre, mais on ne mettait pas la main au collet du meurtrier et au contraire, police et justice suspectaient la jeune maîtresse de la victime. On s'acharnait contre elle, les coïncidences à son encontre s'accumulaient, finalement on l'arrêtait. On l'arrêtait et elle commettait la suprême imprudence qui est fréquente chez les gens, d'essayer de se fabriquer pour s'en sortir, de se fabriquer un faux alibi. On découvrait que l'alibi était faux, alors là tout le monde était convaincu qu'elle était coupable. Et puis c'était par un hasard extraordinaire qu'on s'apercevait qu'on s'était trompé et que finalement on arrêtait le vrai coupable. Alors mon metteur en scène avec beaucoup d'autorité m'a dit non, non. Il est exclu qu'on puisse intéresser le public s'il connaît dès les premières séquences le nom du criminel. La technique, vous ne la connaissez pas, m'a-t-il expliqué, mais elle est très simple. Il faut qu'on ne sache rien, qu'on égare au contraire le public sur des fausses pistes, de façon à ce que dans les toutes dernières séquences, on découvre enfin le meurtrier, qui sera soit le commissaire de police, soit le curé de la paroisse, enfin quelqu'un qui paraissait insoupçonnable. J'étais furieux. Je me suis disputé avec lui, en présence du reste du sympathique dirigeant dont je parlais tout à l'heure, qui malheureusement n'a pas pris parti pour moi. Il m'a expliqué très gentiment pourquoi. Il m'a dit, voyez-vous, si j'avais tué ma femme, je viendrai vous voir et je me conformerai exactement à toutes les directives que vous me donneriez. C'est bon, nous sommes en matière de cinéma. Ce sont réellement vos débuts, vos stricts débuts, tandis que l'homme que nous avons en face de nous a déjà réalisé plusieurs films dont certains ont été du succès. Par conséquent, c'est à lui que je fais confiance. Alors, ça n'a pas été trop mauvais. Le dialogue, du reste, je dois le reconnaître, était excellent. J'ai ruminé quand même cette histoire pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, pour me venger, j'ai écrit un roman qui racontait l'histoire telle que je l'avais conçue initialement. Et il faut croire que ma méthode n'était pas tellement mauvaise. Elle ne l'était pas, puisque depuis, vous le savez, puisque vous y connaissez mieux que moi en matière de cinéma, le procédé a été employé très souvent, oui. Et elle n'était pas tellement mauvaise, puisque le livre s'est beaucoup mieux vendu que le film n'avait marché.
Vous ne m'avez pas répondu directement à propos de En cas de malheur.
Oui, je le connais, si, mais non, je l'ai notamment vu assister à un grand procès que j'ai plaidé à Genève et dont je ne dirai pas le nom, mais que tout le monde connaît. Il n'a pas raté pratiquement une audience. Ce qui prouve que non seulement les metteurs en scène, mais encore les romanciers viennent sur place, car on apprend tout de même beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous pensez en principe des films sur la justice ou des films avec des procès ?
C'est un reflet indiscutable. Ce que je leur reproche souvent, je sais bien que ce n'est peut-être pas commode de faire autrement, c'est que c'est trop chargé. Je sais bien que le cinéma ne peut pas, comme le livre, faire ça en demi-teinte, en esquisse, et qu'il faut faire ça au crayon feutre. Mais quelquefois, j'ai trouvé des films sur la justice que je considérais comme très bons, inspirés du reste de faits divers qui s'étaient passés et de procès qui s'étaient déroulés, et j'étais ravi de voir à quel point c'était sérieux jusqu'au moment où il y avait la grosse charge, le trait réellement trop appuyé. Un avocat général, on lui fait toujours une tête patibulaire, il éructe des mots sans suite, l'avocat est solennel et grandiloquent. C'était peut-être comme ça au siècle dernier. À l'heure actuelle, c'est fini, c'est le règne de l'efficacité. Tout ça se fait sans grands gestes, avec des raisonnements, avec des arguments. Et ça, il y a très peu de films sur la justice qui ont accepté de le rendre.
Hommage à Jacques Feder.
Ce maître artisan du cinéma français décédait il y a 25 ans. Qui se souvient encore qu'il réalisa de 1920 à 1940 une douzaine au moins de films considérables dans les genres les plus divers, de visages d'enfants à la kermesse héroïque, et qu'il nous laisse un exemple. Nous avons retrouvé dans les archives de notre phonothèque une émission composée quelque temps après sa mort par son ami Jean Forest. En voici quelques extraits, et tout d'abord le témoignage de Marcel Carnet.
Il y a eu 20 ans, le 3 juillet dernier, Jacques Feder m'a porté la plus grande joie de ma vie en m'appelant, moi, obscur inconnu, pour l'assister dans la réalisation de ces fameux nouveaux messieurs qu'il venait d'entreprendre. Durant cette année, j'allais être pour lui le collaborateur le plus capricieux, le plus irritable qui soit, mais aussi, du moins je veux le croire, le collaborateur le plus dévoué, le plus passionné et le plus admiratif qu'il ait rencontré au cours d'une carrière pourtant fertile en dévouement de toutes sortes. De son côté, celui qui demeurera éternellement pour moi, M. Feder, devait être durant cette même période à la fois un ami, un père spirituel, un conseiller et un guide auquel je dois d'être devenu ce que je suis. On a parlé, surtout à mes débuts dans la mise en scène, d'influence, je ne sais. Tant d'éléments idéologiques, de manières de voir, de sentir, de comprendre et d'exprimer les choses séparaient nos deux générations. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'une invisible présence a toujours été à mes côtés lors de tous les films qu'il m'a été donné de réaliser jusqu'à ce jour, comme j'en suis sûr, elle continuera de m'assister lors des films que je pourrai produire dans l'avenir. Sinon celle du réalisateur de tant de films demeurait fameuse à juste titre, du moins celle du conseiller à l'amitié agissante, celle enfin de M. Feder.
Françoise Roset et Jacques Feder furent liés par l'amour et le travail. Nous entendrons Françoise Roset interprétant un sketch inédit de son mari.
Au collège, la patronne du fashionable. Le décor représente le bureau du principal d'un collège de province. On frappe. Gabi entre en faisant passer son fils Saturnin devant elle. Elle referme la porte. Gabi porte sur sa robe noire un boa de plumes claires. Petit chapeau tapageur, sac à main, bijoux.
Allez, passe, Saturnin, quoi, avance. Monsieur le principal. Eh ben, Saturnin, dis bonjour à monsieur le principal, voyons. Enlève ta casquette. Oh, c'est jeune, hein. Merci, monsieur le principal. Assieds-toi. Gabi Denver, oui, monsieur le principal, oui. Oui, mais la carte que vous avez là, c'est mon nom d'artiste. Oui, dans la vie, je m'appelle Élise Camus. Et puis, voilà mon fils. Saturnin Camus. Balance pas tes pieds. Hein? Quel âge? Il a 11 ans, monsieur. Quoi? Oui, 12. 12. Alors, ce que le temps passe, hein? Ça vous pousse? Balance pas tes pieds. Quoi? Solide? Oh! Tout ce qu'il y a de solide, monsieur le principal, ça... Malade, il ne sait pas ce que c'est haut de la santé, vous savez, il en a à revendre. Il est comme moi, faudra le tuer. Il est toujours premier en gymnastique d'ailleurs, oui. Oui, en récitation aussi. Mais alors, pour le calcul, oh, c'est une autre paire de manches, le calcul, vous savez. Je... Mais balance pas tes pieds, que je te dis. Enfin, bref, monsieur le principal, je suis venu pour mettre Saturnin pensionnaire. Oui, oui, oh, j'ai eu bien du mal à me décider, vous savez, parce que... c'est un bon petit gars, hein, et puis c'est la première fois que je me sépare de lui. Oui, seulement je m'ai dit son bien et puis son avenir avant tout, hein. Et puis de l'instruction, on n'en a jamais trop. Pas vrai, monsieur le principal? Ah. Et puis enfin, avec la carrière que je fais, papy, et puis tout le monde que je suis obligé de recevoir, du théâtre, oh mais j'en ai fait, monsieur le principal, oh oui, oh, j'ai même eu la grosse cote au musical. Oh oui, tenez, à Bécon-les-Bruyères une fois, hein, ben, j'ai fait 720 francs de plus que la Miss. Ben, Miss Tinguette, quoi, les plumes et tout, vous connaissez. Ben, enfin, c'est vrai qu'il pleuvait, mais enfin, quand même. Seulement, malheureusement, j'ai perdu ma voix, oui. Oui, un chaud et froid, qui m'a dit le docteur. Moi, je crois plutôt que c'est une contrariété rentrée, oui. Mais, alors maintenant, je suis propriétaire d'un bar. Oui, le fashionable. Fashionable. Oui, c'est un mot anglais. Vous connaissez pas l'anglais? Tiens. Oui, enfin, un bar, tout ce qu'il y a de mondain, quoi. Clientèle de gros hommes d'affaires uniquement, oui. Oui, alors, vous comprenez, hein, d'avoir le lardon, là, toujours dans les jambes, c'est pas commode, monsieur le principal, non. Non, et puis ça lui vaut rien. Hein, et comme il n'a que moi au monde, hein, veuve, moi? Oh, quelle horreur! Enfin, je touche du bois, alors, non. divorcé? Ben, pas exactement, monsieur le principal. Minute. Saturnin, va voir un peu à la fenêtre si j'y suis, mon garçon. Allez, grouille. Oui, tenez, monsieur le principal, voilà son acte de naissance. Vous comprendrez. Oh, notez que son père était un homme très bien, oh oui, oh, un homme de la société. C'était un gros industriel du Nord, oui, il travaillait dans la textile. Le textile, quoi, c'est ça, oui. Mais oh, je vous dirai son nom, ça vous épaterait, monsieur le principal. Oh, il a son portrait sur le journal presque toutes les semaines. Hein. Oh, bon, entre nous, il n'y a pas de discrétion, voyons, non. Notez qu'à l'époque, hein, eh ben, il voulait mordicus qu'on se marie. Oui, seulement la famille de Saturnin. Ah, oh, Ben oui, voyons, il s'appelle Saturnin, pas comme le petit, ben forcément. Oui, oui. Là, Saturnin, eh ben, et ta casquette, veux-tu que je t'aide? Allez, ramasse ça tout de suite, une casquette toute neuve, je t'en foutrais. Oui, oui, alors la famille de Saturnin part à s'y être opposée. Oui, oh, vous savez ce que c'est, les idées étroites, hein, en province surtout, oui. Seulement, je dois dire qu'à l'époque, ils sont pas montrés à regardant. Ça faut dire ce qui est, hein. Toujours, pas vrai, monsieur le principal. Il peut revenir. Saturnin, reviens. Tenez, monsieur le principal, voilà ses notes de classe. Allez, assieds-toi. Tiens-toi droit. Hein? De ses études, ben il vient de terminer sa sixième. Oui, quoi? Ah, sa cinquième, oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, oui. Oui, ben alors, il devrait maintenant entrer en sixième. Oui, en quatrième, oui. C'est rigolo, hein, moi j'oublie toujours que les classes, ça se compte à l'envers. Oui. Ben, enfin, elles sont pas mal, ces notes de fin d'année, hein. Ah, tu vois ce qu'il dit, monsieur le principal, hein, il dit comme moi. Eh ben, il dit, si tu t'appliques en maths, ça ira très bien, mon garçon. Et puis, c'est lui qui le dit, hein. Et puis, c'est pas un idiot, le principal. Le choix d'une carrière, oh, bien sûr. Ben voyons, ça t'en a dit, monsieur le principal, si t'avais le choix d'une carrière. Oh, ce qu'il est engourdi, alors. Il voudrait être avocat, monsieur le principal. Quoi? Speaker à la radio. Mais là, n'empêche pas l'autre, mon vieux. Ou même député. Oui, oui, à la rigueur, oui. Enfin, une carrière de causeur, quoi. Oh, parce que pour les répartir les bons mots, hein, il n'y en a pas du comme lui. Ça, je vous dis pas ça parce que c'est mon fils. Hein. Oh, et pour les imitations, donc. Oh, alors là, il est crevant. Oui, enfin, il est marrant, monsieur le principal. Oh, tenez, il imite Maurice. Bah, enfin, chevalier, quoi, vous connaissez? Bah, c'est craché. Oh, Saturnin, fais plaisir à monsieur le principal aussi, quoi. Il imite Maurice dans Prosper. Allez, vas-y, allez. Allez, fermez les yeux, vous croiriez d'y être. Allez, vas-y. Bah, va donc, quoi. Oh. Ça y est, il est intimidé. Oui, je sais bien. Bah, c'est dommage, quoi. Puis t'aurais fait plaisir à monsieur le principal. Il n'a pas tant de distractions, ce pauvre homme. Comment? Pour les sorties, ah oui, ah bah alors là, attendez, une minute. Saturnin, retourne dans le coin, voir si j'y suis, mon garçon. Allez, pas de rouspétance, allez, gros. Oui, et puis, écoute pas, hein. Oh, parce qu'il est curieux, hein, c'est tout mon portrait. Oui, alors, pour les sorties, je vais vous dire, ben, je crois que chaque dimanche, hein, c'est beaucoup. Oui, tous les 15 jours, parce que, voilà, moins il traînera dans mon bar, hein, mieux ça vaudra pour lui. Oui, vous savez ce que c'est, quoi. Il n'y a pas de soirée que je refuse du monde. Alors, ces messieurs, ils boivent beaucoup. Oui. Oh, bah, du champagne, notez bien. Enfin, quand même, quoi. Ils parlent de tout sans gêner, quoi. Ils s'amusent. Et puis, alors, le soir, après la fermeture, à cause du règlement. Ah oui, parce que moi, j'aime toujours être en règle, monsieur le principal. Oh oui, comme ça, pas d'ennui. Hein. Oui, alors, le soir, après la fermeture, le champagne continue à l'appartement, pas ben, comme de juste. Oui, mais alors avec le petit qui n'est pas curieux du tout, vous vous rendez compte? Tenez, le mois dernier, monsieur le principal. Eh bien, j'ai surpris à 4 heures du matin l'œil à la serrure du petit salon. Oui, notez qu'il ne se passait rien. Mais enfin, quand même. N'est-ce pas, monsieur le principal? Bah, et puis, à 12 ans, on se fait bien assez d'idées comme ça. Ben, souvenez-vous, vous, hein? Il peut revenir. Saturnin, reviens. Oui, alors, tous les 15 jours, pour moi... ça sera parfait. Oui. Eh bien, alors, comment? La rentrée lundi? Bien, monsieur le principal. Eh bien, alors, c'est parfait. Alors, lundi, quoi, avec la brosse à dents, le trousseau, puis tout, quoi, c'est ça. Eh bien, alors, au revoir, monsieur le principal, et merci. Hein. Eh bien, Saturnin dit au revoir, monsieur le principal, voyons. Mais ta casquette? Oh! Allez, passe! Oh non, mais ce qu'il est empoté quand même. Non, mais je compte que vous allez me le dérouiller un peu, hein. Allez, va donc! Oh! Dis donc, n'écoute pas, Phil, monsieur le principal. Si jamais vous venez à Paris puis que vous passez par le quartier de l'Opéra, bah, venez boire une coupe de champagne au fashionable. Puis si, l'adresse est sur la carte de visite, là. Mais si, ça nous fera plaisir et puis ça vous changera les idées. Oui, si, on vous gâtera. Au revoir, monsieur le principal. Allez, file, toi.
Et voici Jacques Feder, annonçant le tournage d'un film qu'il réalisa en Suisse il y a une trentaine d'années, une femme disparaît.
Quand on veut travailler en Suisse, ce serait une bien grande erreur de penser d'abord au studio. Il faut montrer ce merveilleux pays. C'est ce que nous allons essayer de faire. En extérieur, le plus possible, en extérieur. Nos quatre disparus vont nous promener dans toute la Suisse. L'une dans les environs de Lausanne, les autres dans le Valais, le Tessin et les parages du lac des Quatre Cantons. Je vous dis ça à peu près, car je vais partir pour réparer exactement les extérieurs. Sur lequel j'ai d'ailleurs des idées très précises.
Ah, parce que vous avez déjà tourné là-bas?
Oui, il y a longtemps, un film muet.
Ah, est-ce que ce n'était pas Visage d'enfant? Oui, c'était une œuvre très émouvante, je me souviens.
Oh,
aussi.
Merci. Jacques Billot, je vous l'ai déjà dit, est l'auteur d'une nouvelle dont j'ai tiré le scénario, de Une femme disparaît. Et Pierre Laroche qui a écrit les dialogues.
Et est-ce qu'ils sont bons?
On ne peut pas vous dire le contraire. Il est justement à côté de nous.
Non, je suis sûr qu'ils sont excellents. Excusez-moi. Et vos interprètes?
Eh bien, les interprètes, Françoise Rosay, vous vous en doutiez.
Bien entendu.
Dans ce film, elle ne jouera pas un rôle, mais quatre. Les quatre disparus, ce seront une même femme, mais sous des aspects divers qui permettront à Françoise Rosay de montrer les différents aspects d'un talent que, personnellement, j'aime beaucoup. Il y aura encore, Claude Dauphin, Jean Worms, et nous espérons, en ces temps, il faut espérer, n'est-ce pas? Gabrielle Dorzia, Emmeline.
Ah, Emmeline, la grande vedette du muet.
Précisément. Elle a été un peu oubliée par le parlant, mais vous verrez que c'était bien injuste. Ensuite, Jules Berry, Henri Guizol et beaucoup d'acteurs suisses. Car je compte employer beaucoup d'interprètes de ce beau pays. Et entre autres, le plus grand comédien de la Confédération.
Michel Simon.
Vous l'avez nommé.
Au Palais de Justice de Lyon, le 17 juillet.
Je peux répéter que si tu t'en vas, quand on aura répété, je te dirai. Monsieur l'agent,
en couple,
vous arrêtez.
Bon, Claude, on y va, là, parce qu'on placera comme ça les gens.
Bon, Pierre Laurent.
Jacques, tu rentres à l'intérieur, alors, parce qu'on va démarrer la répétition.
Philippe, on peut faire une répétition, s'il te plaît.
Je viens d'essayer d'y aller.
On est prêt, mais on est prêt.
Partez. Allez-y.
Je trouve que c'est très intéressant, très agréable, et on se rend compte du travail colossal que peuvent fournir et les metteurs en scène et tout le personnel qui organise un film. Alors, quand les très jeunes ou les mi-jeunes disent « Oh, on va faire du cinéma, c'est épatant, ça rapporte beaucoup », mais il faudrait qu'ils viennent voir et qu'ils se rendent compte. Peu seraient capables de supporter un travail pareil et de le continuer.
Voilà. Messieurs, je vous vois en toge depuis ce matin. Est-ce que vous êtes des acteurs professionnels? Est-ce que vous êtes des magistrats?
Non, pas du tout. Occasionnel seulement. Et ayant trouvé ce travail par l'annonce qui est apparue dans le Progrès, étant chômeur, je suis venu présenter. C'est un travail que je ne connaissais pas du tout. Et je constate que ce travail est extrêmement pénible et délicat pour aussi bien pour les metteurs en scène que pour les réalisateurs.
Voir jouer un film dans une salle, ça n'a rien à voir avec la fabrication d'un film qui demande énormément de travail à telle enseigne que je ne m'attendais pas simplement à être occupé pendant plus de 3 heures pour répéter 2 scènes 5 ou 6 fois en attendant d'obtenir quelque chose qui se rapproche de la perfection quoi, nécessaire pour le film. Quoi.
Est-ce que vous pensez que le métier de figurant, c'est un métier?
Ben, je ne crois pas que ce soit un métier parce que les qualités exigées d'un figurant ne sont pas rien les mêmes, à mon avis, que celles qui peuvent être exigées d'un acteur professionnel. D'abord, on a un rôle muet simplement de figuration, en somme, et il faut s'adapter aux circonstances. Quoi. Alors, bien sûr, pour un profane, c'est un peu surprenant quoi, de voir. C'est un travail nouveau, quelque chose de vraiment nouveau. Quoi. Mais enfin, c'est pas infaisable, étant donné que la figuration n'intéresse en somme que des rôles, comment dirais-je, qui ne présentent pas de difficultés spéciales. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'est correctement payé?
D'après ce qu'on nous a dit, ça équivaut au prix d'une journée quoi, d'un ouvrier professionnel. Alors, c'est valable pour quelqu'un qui a son temps à perdre. Ben, à s'occuper, quoi. Enfin,
voilà. Oui, est-ce que vous avez envie de recommencer?
Mais oui, certainement, oui. Maintenant que nous savons ce que c'est, enfin, je parle au nom du collègue, oui, mais c'est pas forcément peut-être valable pour lui. Mais enfin, je pense que.
En ce qui concerne, c'est exactement pareil. À la première occasion, je suis prêt à recommencer, parce que c'est très intéressant.
Et puis en plus de ça, c'est une distraction, c'est distrayant, d'autant plus que maintenant on est à la belle saison et on ne perd pas son temps. Voilà.
André Hoss, directeur de production.
Bah, la direction de production, c'est d'abord d'évaluer le coût d'un film, de faire un devis, et puis ensuite, pendant le tournage, de veiller à ce que ce devis ne soit pas dépassé. Enfin, c'est à peu près tout.
Et alors, ça conduit à surveiller le plan de travail.
Ça conduit à veiller à ce que l'organisation soit sans faille, parce que les dépassements proviennent la plupart du temps de failles dans l'organisation. Ils peuvent venir aussi d'ailleurs de réalisateurs qui peuvent avoir en cours de tournage des idées dispendieuses, mais ça n'arrive pas toujours, et en tout cas pas avec Bertrand Tavernier.
Bon, vous êtes aussi, vous avez à l'œil les metteurs en scène perfectionnistes, ceux qui refont indéfiniment le même plan.
Oui, bien sûr, parce que le devis, ça comprend la pellicule, ça comprend le temps passé, ça comprend bien entendu une foule de choses qu'il faut surveiller constamment. Mais tout de même, sans être trop dur, parce qu'il faut, je crois qu'il faut laisser au réalisateur une marge qui lui permette de ne pas travailler dans une sorte de fonctionnarisme qui ne serait pas bon pour le film.
Un film comme L'horloger de Saint-Paul va être tourné en combien de jours de travail ?
En 38 jours. Nous avons un plan de travail qui est fait sur 38 jours. Nous en sommes au 18e aujourd'hui. Jusqu'à présent, tout a marché comme sur des roulettes, enfin, comme un mouvement d'horlogerie.
Et alors, à l'écran, ça donnera une projection de quelle durée ?
En réalité, le film ne devrait pas dépasser 1h40. Et je crois que nous allons peut-être le dépasser un petit peu. C'est mieux, en fait, je crois que pour faire un bon film, il faut avoir, au moment du montage, un tas de choses qui peuvent être flanqués à la corbeille. Il faut pouvoir avoir un choix. Il faut pas que ce soit trop strict, quoi.
Vous m'avez dit que c'était un film à petit budget. Ça veut dire combien ?
Eh bien, c'est un film qui fait... dont le devis se monte à 300... Je parle en ancien franc. À 315 millions, exactement. Ce qui n'est pas le tout petit budget. Enfin, ce qui est tout de même nécessaire, je crois... pour un film que l'on veut soigner, et aussi avec quelques acteurs connus.
Est-ce que, je ne vous demande pas si vous aimez votre métier, mais est-ce que vous pensez que le cinéma tel que vous l'avez connu et pratiqué depuis 1939 va survivre ?
Oh, ben, le cinéma, bien entendu, est obligé de survivre. Il y a des modifications dans la façon de travailler. On ne travaille plus maintenant comme on travaillait en 1939. Ça tient d'ailleurs surtout, non pas, à mon avis, à une nouvelle vague, à de nouveaux états d'esprit, mais ça tient surtout et avant tout à des moyens matériels infiniment supérieurs. On a maintenant une sensibilité de pellicule extraordinaire, on a des objectifs, on a des caméras, on a des moyens d'éclairage qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui existait en 1939. Et je crois que le perfectionnement, ou dans la façon de travailler, provient surtout d'un perfectionnement matériel.
On dit quelquefois méchamment que la durée de tournage des films s'est resserrée parce que les producteurs bousculent un peu les metteurs en scène et les obligent à ne plus soigner le travail comme autrefois.
Oh, ça je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, la plupart des metteurs en scène n'accepteraient pas d'être bousculés au point de faire de mauvaises choses. Lorsque un film est mauvais, je crois que on ne le sait qu'après, personne ne le sait, en tout cas pas le réalisateur où il le tourne.
Est-ce que ça reste, comme autrefois, l'œuvre d'une équipe ?
Ah oui, bah bien sûr. Bien sûr, et ça, c'est très très important. Et même, c'est peut-être davantage qu'autrefois l'œuvre d'une équipe. J'ai l'impression qu'autrefois le réalisateur était vraiment le maître, le maître à son bord, alors que maintenant le réalisateur pose des questions au directeur de la photographie. Il y a une façon de tourner qui peut être modifiée. On tient compte de ce que c'est l'assistant, quand il s'agit d'un bon assistant, bien sûr. On tient compte de ce que peut dire la script lorsque c'est une script expérimentée. Alors c'est vraiment de plus en plus le travail d'une équipe, je crois.